Question d'islam par Al Benchir. Aujourd'hui, nous parlons d'exégèse, et notamment de l'exégèse du Coran, d'herméneutique, et nous abordons la question de ce que veut dire vraiment le Coran. L'adverbe « vraiment » est entre guillemets, c'est parce que nous avons la chance, je le dis là aussi vraiment, d'avoir un exégète de renom, le docteur Moreno Al-Ajami. Bonjour.
Bonjour.
Merci de nous faire l'amitié de venir nous édifier le temps d'une émission par à la fois le résultat de vos recherches, de vos travaux. Vous êtes d'une double formation, à la fois docteur en médecine et docteur en islamologie. Nous avons devant nous un homme de science dans tous les sens du terme. Et en islamologie, votre sous-discipline est celle de la coranologie. Donc c'est quelqu'un qui tient un discours rationnel, intelligent, académique, distancié sur le fait coranique. Vous parlez du paradigme coranique. Première question, d'emblée, quand vous dites, ou c'est moi qui le dis, que dit vraiment le Coran, mais qui a pénétré l'intention divine pour savoir ce que dit vraiment le Coran?
Oui, tout à fait. A priori, c'est soit un illuminé, quelqu'un qui a une inspiration, soit c'est une provocation, mais en réalité, ni l'un ni l'autre, mon intention dans ma formulation d'origine, mon premier ouvrage ou le site que je tiens à l'heure actuelle, c'est que dit vraiment le Coran, ça a plusieurs fonctions. C'est d'abord purement rhétorique, interpellatif, c'est-à-dire est-ce que les musulmans se sont posé la question réellement de savoir ce que vraiment dit le Coran. C'est aussi un abord théologique de mon point de vue, parce que si le Coran est le fondement même, le point commun de tous les musulmans, se sont-ils posé la question de vouloir le comprendre vraiment? Donc d'un point de vue pragmatique, sur quels critères au fond on valide telle ou telle signification que l'on attribue au Coran? Est-ce que c'est un effort personnel de réflexion ou bien c'est une validation moyenne d'un consensus moyennement établi? Ou alors est-ce simplement la sacralisation d'une exégèse dont on est les héritiers? Et d'un point de vue herméneutique, pour moi, c'était le point de départ de ma recherche. Au fond, si tout n'est interprétation, comme le dit l'herméneutique, ce sont dogmes, alors que signifie finalement avoir compris le Coran? Et la question qui pour moi était derrière, c'est peut-on dépasser justement la circularité herméneutique, ce qui fonde finalement notre vraiment, c'est-à-dire nos certitudes? Ça m'a amené de manière rigoureuse à aborder une méthodologie qui pouvait faire à la fois la critique des limites ou une raison critique de l'herméneutique, pour l'appeler par son nom, et ça m'a permis de développer une méthodologie rigoureuse d'analyse littérale du Coran, et qui amène à une notion très particulière, qui est celle du sens littéral, contre finalement l'avis méthodologique. Donc le vraiment, pour moi, englobait dès le départ l'ensemble de ces notions.
Oui, j'ai cru comprendre que vous privilégiez la notion de littéralité que celle du littéralisme, c'est-à-dire dans une approche philologique, il faut comprendre ce que veut dire le Coran déjà dans son sens neutre ou premier, en tout cas de la langue arabe rapportée forcément au 7e siècle, et ne pas faire du littéralisme, déjà faire de la littéralité ou de la littérature.
Oui, délicat en français parce que ce sont des termes qui sont un petit peu, non pas confus, mais sur lesquels...
Ambigu, en tout cas.
Du moins la perception en est ambiguë. Donc il me fallait, moi, distinguer cette terminologie. Alors le littéralisme semble plus connu, finalement il semble même caractériser tous les nouveaux mouvements de l'islam à l'heure actuelle, mais ça reste très ancien au fond depuis le 3e ou 4e siècle de l'Égypte. Le littéralisme, quand on l'étudie, on se rend compte en réalité qu'il ne s'intéresse pas au texte lui-même. Il s'intéresse à ce qu'on pourrait faire dire au texte. L'exégèse, ce qui caractérise l'exégèse islamique classique, c'est qu'en réalité, elle ne va pas partir du Coran, contrairement à ce que l'on a l'habitude de répéter, et c'est vraiment une antienne très partagée, elle va chercher dans le Coran des éléments qui vont lui permettre de construire la religion elle-même, ses fondements, ses dogmes, ses croyances, ses pratiques, etc. Donc pour ce faire, en réalité, on s'intéresse pas au texte lui-même, mais à la compatibilité de tel ou tel verset par rapport à ce qu'on veut défendre. Par exemple, quand on veut argumenter le port du voile, on va chercher dans le Coran, finalement, pour être à l'instar à l'époque du judaïsme et du christianisme, un verset, entre guillemets, qui pourrait faire l'affaire, c'est-à-dire qui est compatible, et on va forcer le texte. Puisque maintenant, tout le monde sait à peu près que le Coran ne dit pas mot, même sur le voile.
Ni cheveux,
donc ni tête, etc. Mais, d'un point de vue de la circularité herméneutique, pour les musulmans, lorsqu'ils lisent ce fameux verset référent, verset 30-31 de la sourate 24...
Et surtout le 59 de la sourate 33.
Oui, alors celui-là, encore plus manipulé, entre guillemets, parce que au fond, celui-ci parle de couvrir plutôt le bas du corps, donc là, on est loin encore on est encore plus loin de la tête. Mais les traductions, à ce niveau-là, c'est un vrai problème que de ne lire le Coran dans ces traductions. C'est pour ça qu'il est absolument nécessaire de revenir au texte arabe pour pouvoir raisonner et écouter. Donc le littéralisme a modifié le sens du texte, la perception du texte par des sources extérieures. Si on regarde sur quoi est construite l'exégèse classique, elle est construite sur des dédits attribués au prophète, le hadith, ou à des compagnons proches, ou à des prête-noms comme Ibn Abbas, des gens comme ça, très très célèbres, ou Abu Huraira, dès que c'est une israéliade, c'est d'ailleurs un récit qu'on a emprunté aux fontes talmudiques, et on va rapporter ces textes-là sur le texte coranique. Et ensuite, au niveau de la compréhension, c'est ça qui va agir. Donc le littéralisme n'est vraiment pas la littéralité. La littéralité, c'est repartir à la base même du texte.
Vous avez cité l'un des rapporteurs de hadith, d'aphorismes du prophète, Ibn Abbas, n'avait que 13 ans à la mort du prophète.
Oui, tout à fait.
Et il dit, j'ai entendu le prophète dire... quelques années avant sa mort. Donc on a affaire à un garçonnet de 7-8 ans, de 9 ans, et on fait crédit à sa parole aussi. Ce sont des considérations qu'il faut prendre dans le contexte, au sérieux. Et il y a aussi un autre point, vous avez dit, c'est ce qu'on applique au texte pour le plier. Mais il y a d'autres apports, il y a des grammairiens, ou des exégètes qui ont utilisé la grammaire, comme Zamakhshari, par exemple.
Oui, mais là encore, au service d'une idée, Zamakhshari, c'est connu, c'est un auteur mu'tazilite, tardif, qui va infiltrer, au fond, réinfiltrer de la pensée mu'tazilite, en s'appuyant sur la grammaire, etc. Donc il est devenu une référence au sein du monde non mu'tazilite, c'est-à-dire le sunnisme qui s'est réellement installé après, littéraliste, mais ce qu'on va utiliser, sûrement, c'est son analyse grammaticale, et là aussi, on va lui donner une autre signification. Donc, le problème posé, c'est que effectivement, il faut pouvoir réarticuler le texte sur ce qu'était la langue arabe coranique, mais au service de quelle pensée, de quel paradigme le mettons, l'utilise-t-on ? Et tout est là, en réalité, d'un point de vue scientifique, il faut revenir aux outils de base, la grammaire, la philologie, l'étymologie, mais scientifiquement, rigoureusement, il faudrait le mettre au service d'aucune cause. Mmh. Il faudrait le laisser cantonner au sens du texte, ce que moi j'appelle le sens littéral. Donc.
Maintenant, on ajoute la médiologie, la sémiotique, les sciences du langage. Une question, docteur Al-Ajami, y a-t-il un exégète qui aborde le texte, d'ailleurs quel qu'il soit, a fortiori un texte dit sacré, sans qu'il y ait un présupposé doctrinal, philosophique, idéologique ? Peut-on être dans une approche comme ça, dans la neutralité la plus totale devant un texte où il y a tout de même un résidu de ne serait-ce que dans le subconscient quand on étudie comme ça un patrimoine, et notamment religieux?
Oui, je pense que c'est la question, la bonne question. Comment c'est, où finissent les limites de la neutralité? En réalité, c'est peut-être le meilleur apport de tous les développements herméneutiques depuis la question protestante. C'est pour ça que moi je l'ai, parce que ma formation à l'origine est scientifique, je l'ai reposée de manière scientifique, et pour moi, il faut avoir une méthodologie qui permette au départ de neutraliser déjà les intentions, même les intentions subconscientes. On a tous finalement des a priori qui nous construisent, notre propre herméneutique personnelle. Mais si on a un outil de travail qui permet ensuite de, par vérification, par boucle, par logique, d'éliminer tout ce qui relève de l'interprétation, puisqu'au fond c'est le mot-clé, c'est l'interprétation. Dans quelles limites pouvons-nous entendre un texte pour ce qu'il dit à l'origine, sans passer ensuite par l'interprétation? Donc ce qui caractérise mon approche, c'est que de manière très construite, c'est même un algorithme qui est en 5 étapes, on va pouvoir éliminer les intrusions de l'interprétation, parce que le résultat qu'on obtiendra, une fois qu'on l'a vérifié et revérifié, va s'éliminer de lui-même. C'est-à-dire que si l'hypothèse inconsciente même de celui qui analyse le texte s'avère fausse, elle ne va pas passer la grille de vérification et l'algorithme de la méthodologie de l'analyse littérale elle-même. Et à ce moment-là, il faut proposer ou rechercher une autre hypothèse, et ainsi de suite, ainsi de suite. On peut avoir, il m'arrive de soumettre 10, 15 hypothèses pour le sens d'un verset à partir de la polysémie de tel terme, à partir de la possibilité grammaticale, etc. Puisque l'arabe coranique est une langue très synthétique, absolument pas analytique comme l'est le français. Et donc, beaucoup de possibilités s'offrent. Ce verset très connu, la Ikra fi d-din, qu'on traduit à tort par point de contrainte en religion.
La voie droite se distingue clairement de l'erreur.
Sur le départ, il y a 29 possibilités de signification à partir juste de deux mots, Ikra et le mot d-din, qui lui-même, on traduit par religion, mais qui est très polysémique.
Qui veut dire aussi loi, tradition,
foi.
Créance.
Oui, créance aussi, on peut le voir comme ça. Donc, il faut avoir réellement une, pour moi en tout cas, c'est comme ça que je pratique, un outil qui permet d'éliminer les interprétations et de retenir au fond la seule possibilité, quand il n'y en a qu'une, parfois ça peut arriver qu'il y en ait deux, qui reste sur le minimum de ce que le texte dit. Au-delà, c'est ce que j'appelle le sens littéral. C'est-à-dire que le sens littéral, c'est le sens avant l'interprétation. Et au-delà, on est dans l'interprétation. Rien n'empêche qu'après, on puisse interpréter le sens littéral que je mets en avant.
Oui. Docteur Al-Hajami, en vous écoutant, je ne résiste pas à l'idée de vous soumettre le cas classique d'un verset dit amphibologique ou donnant un sens et son contraire en même temps, à propos de de versets au pluriel. Donc c'est de 1 à 7 de la sourate 3. La sourate de Al-Imran, de la famille d'Imran, quand il est dit, allez, en substance, que voilà le livre, et il y a des versets qui sont univoques, bien clairs, apodictiques, voire péremptoires, et ils constituent la mère du livre, ou l'essentiel du livre. Je sais même pas si je traduis bien ou j'interprète bien, conformément à ce que vous dites. Et il y a d'autres passages qui sont plutôt ambigus, équivoques, et que ceux qui sont attachés ou enclins à la scission, s'y intéressent, et que les autres ne connaissent leur sens que Dieu et ceux qui sont enracinés dans une science profonde. Et en plus, en vous disant ça, moi-même, j'ai donné un sens à ce passage. Alors qu'en réalité, il est très amphibologique. Comment, par exemple, sur une unité textuelle, allez, une péricope pour utiliser le terme exact, fait-on quand on est en face d'une situation comme celle-là?
Bon, à la base, il faut ce verset, vous faites bien, tout à fait judicieux de le citer, parce que il est au fondement même de toute la théorie herméneutique et exégétique qui concerne le Coran. La vraie question, c'est au fond, finalement, est-ce que ce verset dit qu'il peut y avoir une ambiguïté résiduelle, ne serait-ce, et certains versets univoques et d'autres plurivoques. Alors, parmi les principes que je suis et qui sont coraniques, parce qu'en réalité je m'appuie uniquement sur ce que le Coran dit de lui-même qu'il est univoque.
Pardon, c'est ce que vous appelez l'exégèse du Coran par le Coran.
Par le Coran lui-même. C'est-à-dire que moi je ne fais appel à aucune source. Je remets toujours le Coran dans sa globalité, ce que j'appelle l'intratextualité coranique. C'est un corpus clos et je pars du principe qu'il est suffisant à lui-même pour déterminer le sens. C'est l'interprétation du Coran. Je l'appelle comme ça, mais ce n'est que la traduction de quelque chose qui est très connu, qu'on appelle en arabe tafsir al-Qur'an bil-Qur'an, l'interprétation ou la compréhension du Coran, l'explication du Coran par le Coran. Ça a toujours été mis en avant par tous les exégètes classiques, en remontant jusqu'à Tabari, ou 3e, 4e siècle.
Mais de l'Égypte, il est mort en 923.
ça n'a jamais été mis en pratique. Ça n'a jamais été mis en pratique, puisqu'on a trouvé plus aisé de rapporter des propos d'un tel ou un tel, ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc ce verset, vu que par ailleurs le Coran répète à plusieurs reprises qu'il est univoque, et qu'il ne contient aucun doute, la raïba fihi, ou qu'il n'a pas d'équivocité, la ewashfi, etc., puisque le Coran a une particularité parmi les textes sacrés, c'est d'être aussi beaucoup dans l'autoréférentialité, donc il se définit lui-même comme un texte explicite. Alors s'il se définit lui-même, si on reste dans une logique intratextuelle, qu'on ne peut pas me reprocher, entre guillemets, puisqu'au fond tout... C'est le référent, donc on peut le considérer tel qu'il est. Il se considère lui-même comme une entité autonome et univoque. Donc ce verset peut-il signifier ça ? Alors, ce verset signifie ça parce que l'exégèse avait besoin, pour ouvrir les portes de l'interprétation, d'une caution coranique. Alors les mots clés qui sont dans ce verset, c'est deux mots, alors muhkamat et mutashabihat. Muhkamat, c'est assez simple de s'entendre sur le fait que ce sont des versets qui sont bien clairs, on va dire.
Bien explicites.
Bien explicites. Et mutashabihat, on a donné à ce terme le sens de plurivoque ou ambigu, etc. En réalité, si on retourne à la philologie et qu'on regarde ce qu'est ce terme, qui est un participe de la forme 8, on se rend compte que ça ne signifie pas exactement ça, mais que ça signifie qu'il pourrait sembler explicite. Et à l'intérieur même du verset, il y a un apport, puisque vous parliez de péricope, mais en général, en réalité, quand on discute ou qu'on pense Coran, on cite des péricopes du péricope, c'est-à-dire des petits segments à l'intérieur. Et là, on a oublié un segment, mais vous l'avez cité en citant le verset, qui dit, mais en réalité, ceux qui s'intéressent à cette chose-là sont des gens qui ont zairun ferolobehim, c'est-à-dire qui ont eux-mêmes une démarche particulière, ils veulent tordre le texte.
Une inclination particulière.
Une inclination là, mais zaira, c'est incliner et tordre aussi, finalement, en arabe, et donc
un regard qui dévie.
Oui, voilà, c'est tout à fait ça. Une déviation. Oui. Donc, il y a une intention au départ. Donc, le verset pourrait sembler ambigu, mais c'est l'intention de départ qui va amener l'interprétateur en cause à pouvoir dévier le sens du texte et à y trouver des significations qu'il recherche. Car on ne trouve jamais que ce qu'on cherche. C'est pour ça que vous employez le terme de neutralité. Oui, la neutralité, elle existe scientifiquement. On peut même, du point de vue épistémologique, on peut même la tracer. Donc, ce verset ne dit que ce qu'il semble dire que parce qu'on avait besoin de cet outil. Encore une fois, c'est ça le littéralisme. C'est une interprétation, en l'occurrence, d'avoir cet agrément du Coran sur la possibilité d'interpréter. Mais les termes qui sont restés dans le Coran ne disent pas ça. Ils disent qu'il pourrait sembler ambigu à celui qui a dans son esprit, parce que le mot qalb là, c'est pas le cœur, c'est vraiment l'esprit, dans son esprit, la volonté de rechercher des éléments qui vont permettre de pouvoir ensuite tirer le texte vers l'idée qu'il a envie de développer, c'est-à-dire son système d'interprétation.
Oui.
Donc je remets en cause, là, le fondement même du potentiel de la défense, finalement, dans une certaine intelligentsia islamique, mais c'est très ancien, c'est le fondement même de tous les exégètes. Je remets en cause cette possibilité. Le Coran se dit explicite et univoque. C'est, en tout cas, de ce postulat coranique, j'ai tiré le postulat de mon approche, de ma méthodologie.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec l'exégète et l'herméneute docteur Moreno Al-Ajami. Docteur Moreno Al-Ajami est d'une double formation, à la fois médecin et islamologue, coranologue. Docteur Al-Ajami, pour cette toute dernière partie, dans ce que vous avez dit, il y a la fin de la péricope qui dit « mais ne pénètre sans sens ou ne connaisse la signification de ces passages ». Et là, comme il n'y avait pas de ponctuation à l'époque, on ne sait pas s'il s'agit de Dieu seul ou Dieu seul et ce qui sont enracinés dans une science profonde, disant « Seigneur, nous n'avons de science que ce que tu nous as enseigné ou donné ». C'est l'interprète qui tranche finalement le sens de ce passage, ou il faut qu'il prenne les deux ?
Non. L'interprète, enfin non et oui,
les réponses bien. De Breton. Enfin, moi je ne fais que poser des questions.
Non, non, c'est une réponse de Normand du Sud-Ouest, mais l'interprète ou l'interprétateur, lui, va trancher. Il va mettre un point là où il n'est pas, et il va dire qu'au fond, seul Dieu connaît le sens du Coran, et les enracinés dans la connaissance ont finalement comme seul motif de dire, et seule raison d'être, de dire « mais finalement on ne connaîtra que ce que Dieu nous a donné, donc le sens du Coran n'appartient qu'à Dieu ». Là aussi, si on reste dans l'intratextualité coranique, c'est tout à fait en contradiction, en opposition. Et à propos de contradiction, la particularité du Coran, toujours dans cette approche-là, c'est de dire lui-même de lui-même qu'il ne contient pas de contradiction. Donc il faut le considérer avec cohérence. Donc si on comprend le point à cet endroit qui ne fait que la compréhension du Coran n'appartient qu'à Dieu, de toute façon, quid de l'exégèse, de l'herméneutique, donc on ne fait rien du Coran au fond. Mais le Coran se définit comme un message adressé à l'humanité, explicite, univoque et une guidée pour les gens. C'est vraiment dans les premiers versets, dans les Kalkitab, voici le livre « Hudan lil Mutaqin », j'abrège, donc guidé pour les craignants de Dieu. Donc on ne peut pas guider si le sens même du message n'appartient qu'à l'auteur, entre guillemets, au locuteur ici en l'occurrence avec un L majuscule, Dieu. À ce moment-là, à quoi sert finalement de produire un message qui ne serait réellement et fondamentalement connu que par l'auteur du message? On est non plus dans l'herméneutique, mais on va rentrer dans l'herméneutisme. Et c'est pas la même chose.
Et toujours avec cette idée que le suffixe « isme » étouffe la racine, oui, dans plusieurs cas. Passons, si vous voulez bien, docteur Al-Ajami, à des cas pratiques ou en tout cas suscitant beaucoup de polémiques, de difficultés, d'explications à travers l'histoire qui n'ont convaincu personne. Je vous les cite, nous en prenons trois, et peut-être d'ici la fin de l'émission, nous aurions l'occasion d'avoir un éclairage de la part de l'exégète moderne que vous êtes. Il y a des difficultés réelles dans la compréhension de l'écrit coranique. Ces trois cas sont l'amputation réelle ou supposée de la main du voleur, parce que s'agit-il de lui faire une entaille ou d'amputer carrément la main? Et qu'est-ce que ça veut dire, cela? La deuxième problématique, c'est celle où l'on parle de frapper les femmes ou, en tout cas, laisser-les dans leur couche. Et le troisième point, c'est peut-être vous-même qui en parlez le mieux, c'est le verset violent ou le plus violent du Coran. Alors commençons par le premier, qu'est-ce que c'est que cette affaire de punir le voleur par le châtiment de l'amputation de la main?
Oui, c'est effectivement une sacrée affaire, on peut l'appeler comme ça.
Et qui pour certains est devenue une affaire sacrée.
Et une affaire sacrée, voilà. À l'origine, ce verset a d'abord été compris comme signifiant qu'il fallait couper les mains des voleurs. Mais en réalité, pour les juristes qui avaient trouvé là un instrument de pouvoir, au service en tout cas du pouvoir et des puissances califales, ça posait déjà des problèmes. Parce que, au fond, on peut couper la main du voleur, on peut lui couper les deux mains s'il récidive. Mais après, au-delà, la casuistique juridique, qui n'a pas d'état d'âme, se demandait finalement comment on allait continuer, etc. Donc, c'était pas si évident que ça au départ. À la période moderne, cette chose-là a été reprise et on a donc cherché, c'est un petit peu une des tendances actuelles, d'édulcorer la signification du verset, qui est bref au fond, hein, donc qui dit le voleur et la voleuse, coupez-leur la main en récompense de ce qu'ils auront commis.
Ou en rétribution de ce qu'ils ont commis.
Nakalan, et si j'oublie pas, on reviendra sur le sens du mot nakalan. Donc, on s'est dit, non, mais point de vue de la sensibilité actuelle, de toute façon, c'est un non-sens. Alors, il y a plusieurs façons d'aborder le problème. On a eu dit que ça n'a jamais été appliqué. Dans l'histoire, on ne recense que 5 ou 6 cas de mains coupées, etc. Seulement, quand on regarde la réalité, dès qu'une dictature de type islamique s'est installée, la première chose qui a été faite, c'est de multiplier les amputations sur la place publique.
Oui, docteur Alazemi, à travers l'histoire, toute l'histoire, il y a eu que 3 ou 4 cas, et on en a davantage dans l'histoire contemporaine.
Oui, voilà. Tout à fait. Parce que le texte demeure, et ça c'est une des spécificités finalement des musulmans, c'est d'être réellement une religion, des gens du livre et une religion scripturaire. Donc le texte est là. Alors le texte dit, le voleur et la voleuse, coupez-leur, si vous consultez les consultations, les traductions, il est dit coupez-leur la main. Bon, ce qui est logique. En réalité, quand on regarde le texte arabe, il est dit coupez-leur les mains. Les mains, aïdé, yaoum, hein, donc les mains des deux. En arabe, on sait que le pluriel, différemment du français, ne commence qu'au minimum à partir de 3 unités.
Parce qu'il y a le duel.
Parce qu'il y a le duel qui désigne 2 choses. Et que, donc on a le singulier, une chose, le duel, 2 choses, le pluriel à partir de 3. Alors, littéralement, là, dans le texte, il est dit « coupez-leur plus de 2 mains ». Ce qui pose un problème, est-ce que ça signifie qu'il faut couper 2 mains? Il y a le voleur et la voleuse, donc si on veut rester là dans l'analyse syntaxique, donc faut-il couper 2 mains au voleur, une main à la voleuse? Ça ferait 3, ça marche, ou 2 à chacun, etc. Donc vous voyez, on est dans une impossibilité, ce pluriel interpelle. Parce qu'en réalité, il ne dit pas ce qu'on a dit que ça devait dire, il ne dit pas couper-leur la main, mais couper-leur les mains. Bon. Ça, c'est un vrai problème. Alors, c'est pas une marotte ou un sophisme de philologue ou d'exégète. En réalité, ce problème avait été tout à fait perçu par les premiers exégètes. Le plus ancien dont on est le texte intégral, à peu près, c'est Tabari, qui avait remarqué l'anomalie. Et pour rendre le verset compatible, et c'est ça le littéralisme, il a été dit et écrit, c'est toujours dans ces ouvrages qui ont 1000 ans maintenant, que non, il fallait comprendre le singulier, le voleur et la voleuse par un pluriel. Hein, on le passe au pluriel, donc ça marche. Ou bien, il faut comprendre le pluriel qui est employé ici, aïdéia, il faut le comprendre comme un singulier, aïd. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas s'occuper du texte, on va rectifier le texte pour le rendre cohérent. Alors, vraiment, la littéralité, la détermination du sens littéral, c'est pas cette, pour moi, ce qui ne relève que de manœuvres interprétatives. Si donc, et c'est la définition même qui permet de déterminer est-ce qu'on est dans un sens au sens propre ou au sens figuré. Le sens figuré, c'est lorsqu'il y a une impossibilité cohérente, logique, réelle du sens propre. Si je dis Raleb est un lion, tout le monde saura que Raleb ne fait pas partie de la famille des félins qu'on appelle les lions, etc.
Donc si Raleb, c'est le lionceau aussi.
Oui, c'est pour ça que je prends cet exemple.
C'est Victor, c'est lionceau, c'est un lion junior, entre autres acceptions.
Hein. Donc, vous abondez à mon sens, finalement, on est obligé de comprendre les choses au figuré. Et si on fait ce constat littéral-là, on se dit, ok, on est donc dans une locution au figuré. À ce moment-là, le verbe couper, lui aussi, a des sens figurés. Le verbe khata'a a des sens figurés. Et le mot yad en arabe, c'est un mot extrêmement utilisé pour construire des locutions, tout comme en français d'ailleurs. Le mot main est vraiment très riche d'un point de vue lexical et du point de vue figuré surtout, puisque finalement, anatomiquement, c'est pas grand-chose. Et il tombe alors sous le sens que qata'a veut dire couper les moyens, les possibilités, et liad, on sait que c'est la puissance, la richesse. Et on arrive à un sens figuré obligatoirement, puisque le sens propre ne peut pas fonctionner, ou alors le texte est totalement, n'a aucun sens, il est très, très mal écrit, il est fautif. Mais pour que le texte soit cohérent et non fautif du point de vue des règles de la langue arabe, on est dans un sens figuré qui consiste à dire le voleur et la voleuse, retirez-leur ou coupez-leur les moyens, ce qui leur a permis d'obtenir leur puissance et le vol. Alors, paradoxalement, finalement, ça revient à dire supprimer aux puissants les moyens qui leur permettent de commettre des exactions contre les autres, contre les pauvres. Et c'est le grand paradoxe, c'est que le Coran, finalement, là, tire un trait contre les riches et les puissants au service des pauvres. Mais que la pensée exégétique officielle califale a retourné totalement le sens et en a fait un outil de rétorsion des puissants contre les pauvres.
Alors, que pensez-vous, c'est moi qui pinaille un peu, de ces exégètes contemporains qui disent « Oui, mais vous n'avez rien compris, puisqu'il y a un autre passage dans le Coran, dans la sourate de Joseph, la sourate 12, où la femme subjuguée par la beauté de Joseph demande à celles qui l'ont blâmée, les autres femmes, de regarder la beauté de Joseph. Et elle leur donne un couteau et une pomme, et elles se font des entailles dans leur propre pomme à elles. Ça ne s'écrit pas de la même façon. Et là, comme c'est le même verbe, donc il s'agit tout simplement de faire des entailles dans la main des voleurs, indépendamment de ce pluriel qui pose problème, je ne veux pas entrer trop dans les détails. Et est-ce que c'est une manière un peu maladroite, je n'arrive pas à trouver le terme, de faire de l'exégèse, au lieu de revenir à la littéralité du texte, mais c'est de sauver en quelque sorte les apparences, parce que ça paraît barbare d'amputer la main du voleur.
Ben oui, je pense que vous l'avez dit, c'est ce qui, à mon sens, c'est ce qu'il faut en penser, l'intention est bonne. Mais la pratique n'est pas correcte parce que de toute façon, l'intertextualité met en question les contextes d'insertion de chaque verset. Là, on est dans un récit totalement différent. Est-ce qu'elles se sont réellement coupées les mains par une attention subjuguée par la beauté de Joseph, ou est-ce que c'est encore une fois une expression figurée? Mais le verset prend le soin de préciser qu'on leur sert des fruits. Donc on est vraiment dans une scène où l'image garde une réalité possible. Et il faut donc préférer la comprendre au sens figuré, sauf si on voulait la mettre artificieusement en relation avec ce verset sur qui parle tout à fait dans un autre contexte, réellement de quelque chose de différent, c'est-à-dire le vol lui-même, la spoliation des biens, comme j'expliquais, c'est la spoliation des biens par les riches sur les pauvres, et ce n'est pas à notre époque qu'on a besoin d'expliquer cette chose-là.
Bien. Passons, si vous voulez bien, docteur Al-Ajami, à ce deuxième verset, qui est au centre de polémiques emportées, non sans raison d'ailleurs, c'est celui qui parle de frapper les femmes désobéissantes ou celles qui agissent d'une manière inappropriée et de les ignorer, y compris dans leur couche.
Oui, fameux verset.
Le 4-34, hein,
voilà,
comme on dit.
Voilà, le 4-34.
Le 34 de la sourate 4 dédiée aux femmes.
Oui, en partie.
En partie, oui.
Donc, alors, c'est un verset vraiment, vraiment typique, puisqu'au fond, même si on ne retient encore une fois que ce segment dans le segment, ce verset est magnifique. Enfin, entre guillemets, puisqu'il commence en disant que les hommes ont autorité sur les femmes pieuses sont obéissantes à leur mari, et puis si vous craignez d'elles quelques turpitudes, nouchouze, alors exhortez-les, séparez-vous d'elles, ne faites plus lit commun, en fait, on dirait couche commune à l'heure actuelle, puis frappez-les. Avec ça, on a la totale du machisme, misogyne,
et de
sexiste,
la violence conjugale.
De la violence conjugale, etc. Alors, conjugale est le bon terme, parce que déjà, si on voulait être précis au départ, c'est pas l'autorisation donnée de frapper les femmes. J'avais commis, il y a une dizaine d'années, un article qui s'intitulait « Frapper sa femme avec le Coran ». Bon, c'était l'argument, voilà. Et comme dit... La vraie question, on ne va pas envisager les deux autres parties. Le verbe en question, c'est le verbe daraba, qui est traduit et compris ici par frapper. Ce verbe-là a une quarantaine de significations différentes. Donc on peut vraiment gratter et se poser la question. Pour pouvoir faire des choix dans la polysémie, ce qui est essentiel dans une approche rigoureuse, c'est le contexte. Or, ce verset n'est pas isolé et se petit segment du verset l'est encore moins. Le verset qui suit, le 35, dit « Et si vous craignez la séparation, alors faites intervenir deux médiateurs, deux arbitres, deux médiateurs, on dit à notre époque, pour essayer de réconcilier les choses. » Et ces deux versets ont un autre répondant, toujours à l'intérieur de la sourate 4, qui est la réversibilité. Là, c'est le cas de la femme qui craint de son mari. Le même mot est employé que deux fois dans le Coran, et c'est dans ces deux versets ce qui permet de dire que c'est vraiment l'un est le correspondant de l'autre, qui a une très grande rigueur sémiologique dans le Coran, lexical. Les mots ne sont pas placés au hasard. Et ce nouchouz en question, là, c'est la femme qui craint cette chose-là de son mari, et il est appelé là que la démarche principale, c'est de chercher la conciliation, al-sulh khair, la conciliation, c'est ce qu'il y a de meilleur.
Donc oui. Là, on a nos choses pour nos amis auditeurs, c'est le fait de se détourner, de s'écarter, de ne pas.
C'est plus fort que ça, je pense, comme terme. Hein. C'est turpitude garde une certaine imprécision qu'a le terme, mais le met au bon niveau. C'est beaucoup plus grave que ça. On ne parle pas de mésentente conjugale, etc. Tout couple sait ce qu'il en est. On est dans un moment vraiment de crise, on va dire. Et le conseil global, quand on prend l'ensemble des trois versets que je viens d'évoquer, c'est de rechercher la conciliation. Selon cette logique-là, frapper les femmes, en troisième position dans la liste, l'exhortation, la séparation physique, au lit, venir frapper les femmes là, c'est tout sauf aller dans une démarche de conciliation. Donc ça paraît difficile de retenir. En fait, en toute logique, s'il avait été question de frapper les femmes, il aurait fallu le citer au départ.
Il n'y a pas une gradation pour aller vers la réconciliation.
Pas du tout. Si vous voulez être efficace par cette méthode-là, vous commencez par frapper. Puis ensuite, vous exhortez et à la limite, vous tenez votre épouse, vous vous tenez loin de votre épouse. Vous aurez une progression plus pédagogique. Si pédagogie divine, il y avait dû avoir...
Commencez par frapper, mais bon, non, j'entends.
C'est en toute logique et en toute neutralité, encore une fois, c'est-à-dire analyser rationnellement les cas de figure. Donc il nous reste, dans l'ensemble du champ lexical du verbe daraba, il nous reste soit frapper, qui pourrait malgré tout faire l'affaire ici, soit éloigner. Alors éloigner,
là, conformément à l'idée que l'idrab, comme en anglais, to be on strike, c'est-à-dire frapper, mais le fait d'être dans une situation de frappe, c'est plutôt faire la grève.
Oui, voilà. Et on a ce sens en arabe, daraba, c'est s'éloigner, et s'éloigner de... Donc là, on a une vraie progression, le dialogue, l'éloignement physique pour que tout le monde se calme un petit peu, et ensuite, au fond, si on n'y arrive pas, l'éloignement toujours pour rechercher la conciliation, parce que quand on regarde des longs passages qui parlent de la répudiation, talaq, et de son évolution vers le divorce, on voit que toutes les mesures qui sont énoncées sont pour, c'est du gain de temps, des délais de 3 mois d'observation, 4 mois, etc., pour toujours espérer revenir à la conciliation. C'est vraiment un objectif qui est transversal dans l'ensemble des versets là-dessus. Donc là, s'éloigner de, c'est la bonne mesure. Alors, pour être tout à fait juste, on pourrait reprocher une impossibilité de ce sens-là. Parce que, en réalité, à l'heure actuelle, pour dire s'éloigner d'eux, en arabe, on dit daraba an. C'est-à-dire que le verbe est intransitif. Et là, dans le Coran, il serait transitif. Idrbun, c'est transitif. Bon. On va pas faire.
Le complément d'objet direct, en l'espèce, ce sont ici les femmes.
C'est les épouses. Les femmes. Voilà, oui. Unna, c'est les femmes. Donc, ça pourrait être un argument. En réalité, le statut des verbes transitifs et intransitifs varie dans le temps. Il a varié énormément en arabe, et le Coran est un état archaïque de la langue arabe, ce n'est pas l'arabe de la normalisation 2-3 siècles après qui a donné l'arabe littéral, etc. On peut vraiment parler d'arabe coranique. Et il y a des exemples, d'autres exemples dans le Coran, de verbes qui sont utilisés transitivement, alors que maintenant on ne les comprend qu'intransitivement. Donc l'argument là philologique n'est pas retenu. Par contre, l'argument contextuel et la cohérence du propos fait que sans hésitation, pour moi, et de manière très démontrée, il faut comprendre, éloignez-vous d'elle et non pas frappez-les.
France Culture, Question d'Islam, Khaled Bencher.
Cette émission est consacrée à l'exégèse coranique, avec un herméneute et un exégète du Coran, un coranologue, médecin aussi, docteur Moreno El Ajami, qui a investi une bonne partie de sa vie, plus d'un quart de siècle, à étudier le Coran, à l'interpréter, à le comprendre. Et permettez-moi, docteur El Ajami, de vous dire, est-ce que, en dehors de comprendre le texte dans sa littéralité, à ne pas confondre donc avec le littéralisme, ça je l'ai compris, est-ce qu'on n'est pas en train de vouloir sauver ce texte-là? Pourquoi, à un moment donné, ne pas dire il y a tel ou tel passage qui sont inopérants dans leur incidence sociale, morale, voire politique au sens fort du terme, sont frappés d'obsolescence, sont caduques, sont inacceptables, et donc on les met de côté.
Oui.
On vous pourrait... y souscrivez
ou... Non.
Non. Ah ben.
Non, parce
et
que...
alors, pourquoi? Parce qu'il faut sauver le terme, enfin le comprendre dans sa littéralité et après, puis voir qu'il ne pose pas de problème.
Moi, je mènerai pas campagne, et d'ailleurs, je reste un homme absolument pas public, donc je n'ai pas une idée à défendre ou un combat à mener. Faut-il sauver le Coran ou Willy, si vous voulez? Pour moi, c'est la même question. Si le Coran contient des énoncés incorrects, ça pose un autre problème, à mon avis, pour les musulmans. Et finalement, ceux qui veulent sauver le Coran, c'est pas ce qu'ils disent, qu'ils proposent qu'on frappe d'obsolescence tel ou tel verset. C'est ceux qui disent, il faut garder les versets avec le sens qu'ils ont.
Mais c'est peut-être voilà. Pas le verset qu'il faut frapper d'obsolescence, mais son incidence et sa compréhension.
Mais ça revient au même. Ça devient une lettre morte. Or, le Coran n'est pas une lettre morte pour les musulmans. Il reste une lettre absolument vivante. Mais moi, je ne pars pas d'un présupposé en la matière. Je suis assez neutre. Quand j'ai commencé vraiment mes recherches il y a 25 ans, j'ai passé 2 ans à réfléchir sur les preuves que l'on avait de l'authenticité du texte lui-même. Parce que si le texte, pour moi, n'avait pas de garantie, ça valait pas vraiment la peine de passer 25 ans à me pencher dessus. D'autres activités, d'autres lobbies que celui-là. Mais... c'est l'inverse. Moi, c'est le constat qui m'a amené à cette chose-là. Au fond, il n'y a pas besoin de chercher à expurger le Coran d'une manière ou d'une autre, en le disant, bon, en le contexte, en l'historicisant. Ma démarche n'est absolument pas historicisante. Voilà, c'est le contexte, c'est l'époque, c'est les mœurs de l'époque. Maintenant, ça ne fonctionne plus, etc. C'est une idée qui a du sens en elle-même, mais que vous pouvez appliquer à n'importe quel texte. La relation... interne à l'islam au texte, c'est quand même pas celle-là. Donc, je pense pas que ce soit une idée. C'est une idée de secours, espèce de galette qu'on peut sortir quand on est gêné. Mais en même temps, au fond, ma pratique du texte m'a montré que ce cas-là, pour l'instant, je l'ai jamais rencontré. À chaque fois, finalement, non pas il y a une solution de secours, mais si on vient posément à ce que dit le texte, eh bien le texte-là ne peut pas dire, par exemple, on a parlé, couper les mains des voleurs. C'est juste démontrable, au fond. C'est ça la particularité d'une démarche d'analyse littérale, c'est qu'on apporte des arguments démonstratifs. Et comme toute méthode scientifique, c'est falsifiable. C'est-à-dire que moi, j'expose vraiment par le détail dans mes écrits toutes mes démonstrations. Si je me suis trompé, on peut m'opposer un argument. Et en même temps, donc, on est sur ces exemples-là, non. En aucun cas, le texte ne veut dire couper les mains des voleurs ou frapper les femmes. Mais on lui a fait dire... couper les mains des voleurs et frapper les femmes.
Bien. C'est comme clair. Toute méthode scientifique à la Karl Popper, c'est falsifiable, c'est réfutable et c'est vérifiable.
Tout à fait.
Passons au dernier verset, tout aussi problématique. C'est celui de la violence, même d'une manière générale, les versets qu'on appelle les versets belligènes, violents, martiaux, source de tous nos ennuis, musulmans ou non musulmans de nos jours. Alors, Prenez un au choix. Vous avez parlé vous-même d'un verset le plus violent. Oui. Et comment vous l'avez traité, si je puis dire, dans tous les sens du terme.
Ou maltraité.
Ou maltraité.
Non, moi je ne maltraite pas le texte, je le respecte. Et c'est ce qui permet de l'entendre. Parce que à force de parler pour le Coran, finalement, on ne l'écoute plus. Bon, alors ce verset, il y a une anecdote au départ. À l'époque où Daesh passait régulièrement à la télé, on va dire, de manière euphémistique, j'avais entendu un soir un jeune français qui disait, il diffusait des images en arrière-fond d'amputations de gens, de crucifixions à Raqqa, en place publique, enfin des choses plus horribles les unes que les autres. Et ce jeune djihadiste, entre guillemets, daeshiste, ça c'est sûr, justifiait ses exactions en citant un verset. Le lendemain...
Ah, si vous pouviez nous le
je vais vous
dire,
citer,
s'il bon, vous
je peux
plaît.
Le citer maintenant. C'est un verset qui dit, à peu près, mot à mot presque, ceux qui font la guerre à Dieu et son prophète, tuez-les, ou crucifiez-les, ou coupez-leur les pieds et les mains croisés, alternes, etc. Ou enfouissez-les sous la terre, on peut le voir comme ça. Donc, et c'est le seul châtiment de ces gens-là, c'est ce que ça dit, la récompense, le châtiment de ces gens-là, c'est ça. Et il cite ce verset. Donc contextuellement, il a finalement un argument coranique pour justifier les exactions, ce qui est très violent, et on se dit, oula, c'est très inquiétant. Le lendemain, j'ai entendu l'imam de la mosquée de ma petite ville faire campagne...
Dans le Tarn.
Faire campagne, faire un prêche sur, contre le terrorisme, etc., etc. Et à un moment donné, il s'emporte et il dit, ces gens-là, ce sont des ennemis de Dieu en réalité, des ennemis de l'islam. Et que fait-il? Il cite le même verset qu'il retourne contre Daesh. Donc un texte, c'est problématique, surtout quand il perdure, et c'est le cas du Coran. Donc ce texte-là, en réalité, il faut le replacer dans son contexte. Quand je dis contexte, moi, ce n'est pas le contexte historique, c'est le contexte textuel. Ce verset fait juste suite...
Presque un contexte linguistique.
Oui.
Même pas.
Non, même pas. Où se situe le verset dans la logique du propos? Là, c'est le verset 35 de la sourate 5. On a juste avant le verset 34 qui dit une chose extraordinaire, qui dit que celui qui a sauvé une vie, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité, et que celui qui a sacrifié une vie, c'est comme s'il avait sacrifié l'humanité. Et juste avant encore, on a un récit qui nous rappelle
Abel et Caïn.
Voilà, sans doute à tort, parce qu'en réalité, ça ne parle que du cas d'une personne crime que commet un homme sur un autre homme. Donc on a une critique de la violence entre les hommes, puis on a une mise en avant du respect de la vie. Il est juste rappelé après que par contre, ça s'adresse à qui tous ces versets? Ça parle des juifs. Non pas des juifs au moment du temps d'énonciation du Coran, mais des juifs dans leur histoire. Avec un fil conducteur, celui de la réfutation, de la non-justification de la violence. Comment voulez-vous donc, à ce moment-là, que ce verset, qui arrive là comme un point d'orgue, justifie une telle violence? Les anciens exégètes, parce que c'est toujours intéressant de retourner aux anciennes interprétations, avait noté une autre particularité, c'est que ce châtiment, crucifié, amputé, encroisé, etc., c'était le châtiment qui était attribué à Pharaon dans d'autres versets du Coran. Et il s'était dit comment, finalement, Dieu peut ordonner qu'on exerce le même châtiment que Pharaon dans le Coran, qui est l'archétype même du tyran, l'ennemi de Dieu par excellence, etc. Ça leur avait peut-être un petit problème, ce qui ne les a pas empêchés d'aller jusqu'au bout de leur logique et de donner cet instrument, là encore une fois, au pouvoir califal. Or, si on prend tout le contexte, on est dans une histoire juive. Et il existe un autre groupe de versets dans la sourate 2 qui parle de la même chose. Et on peut l'identifier parce que segment par segment, on peut repérer sur l'ensemble des trois versets que j'ai cités, le 33, le 34, le 35. De la sourate 5. On peut retrouver un passage qui suit la même trame de récit. On repère les segments et qui fait référence à des guerres intestines fraternelle presque ou intestine entre les Juifs, entre les Juifs, donc c'est les guerres entre les royaumes du nord de Jérusalem et les royaumes de Juda et de Benjamin, le royaume du sud. Et là, ce qui est intéressant, c'est que dans cette guerre fratricide, on a fait appel à un pharaon qui s'appelait Sheshonq Ier. Ça, c'est un fait historique, on a retrouvé des bornes tant en Palestine qu'en Égypte. Et ce pharaon, et c'est à ça que ça fait référence, à appliquer cette chose-là. Ça veut dire que ce verset se comprend au passé. Et la récompense, vous, c'est ce que dit l'autre, la fin, vous êtes combattus les uns les autres. Et la récompense de ceux qui se sont combattus, ceux qui ont mené la guerre contre Dieu et son prophète, mais le prophète en question, c'est le prophète du temps de Jéroboam pour ce qui était des tribus du Nord, et le prophète de Juda pour ce qui était... Voilà, donc là on est dans un contexte finalement, une histoire qui peut être attestée par ces versets 182-183, je ne suis pas sûr, dans la sourate 2, et qui nous dit, au passé, et la récompense de vous qui vous êtes combattus entre vous, alors que ça vous avait été interdit, alors que je vous avais sacralisé la vie, c'est finalement d'avoir subi ces châtiments-là, qui sont bien des châtiments de Pharaon, parce que Sheshonq Ier, parce que si ma mémoire est bonne, Jéroboam était marié avec la belle-sœur de ce Pharaon-là, il a fait appel, puisque la Palestine a toujours été presque une chasse gardée d'expansion, vase d'expansion des Égyptiens, il a fait appel à ce Pharaon, et il a appliqué ces châtiments-là. Vous voyez, on est absolument dans une... Alors là, on est dans une perspective d'une exemplification par un récit passé qui a été totalement détourné, surinterprété et qu'on continue à utiliser avec une très grande violence à l'heure actuelle.
Alors, cher docteur Al-Ajami, merci, parce que nous arrivons au terme de notre émission. Si vous en êtes d'accord et si vous avez l'amabilité de revenir nous parler davantage de vos travaux et surtout de cette exégèse du Coran dans sa littéralité la plus neutre, eh bien vous serez toujours le bienvenu.
Merci beaucoup.
Chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam. Aujourd'hui, nous avons parlé d'exégèse du Coran à travers des cas précis. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attachée d'émission est toujours Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Bernard Laniel et la réalisation est assumée par l'ami Franck Lilin.
قلبي